Écho d'Écolo, l'émission étudiante qui met la planète au micro. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Alliance Plus dans cette nouvelle émission étudiante Écho d'Écolo. Écho d'Écolo, c'est un projet des étudiants en deuxième année de Master Gestion de l'Environnement à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le quatrième épisode qui se nomme « L'herbe est-elle plus verte ailleurs ?». Les animateurs du jour sont Maël, Camille et Yannick.
Aujourd'hui, nous allons parler d'herbe. Alors non, pas celle que fume Snoop Dogg, mais celle qui constitue nos gazons et nos pelouses. Peut-être en avez-vous chez vous, et probablement que vous appréciez d'une manière générale ce bout de verdure. Après tout, c'est joli ces petites pousses, c'est vert, on peut jouer au foot avec les copains, et puis c'est des plantes, donc ça doit être bon pour la planète, non ?
Pourtant, vous avez déjà peut-être entendu dire que ce n'était pas si bien. Ou même pire, votre voisin écolo est venu sonner à votre porte pour vous dire d'arrêter d'arroser votre bout de terrain en plein cagnard.
Vous pourrez faire comme vos tontons climato-sceptiques et envoyer chez les écolos. Ou bien, écouter ce qu'ils ont à dire. Car après tout, ces écolos, ils veulent peut-être votre bien, non ?
Bon, on déconseille de la fumer cette herbe. À la place, on va vous raconter une brève histoire de nos pelouses. Car oui, les chasseurs-cueilleurs de l'âge de pierre ne cultivaient pas l'herbe à l'entrée de leur caverne et aucune verte prairie n'accueillait les visiteurs de l'acropole athénienne, du Capitole à Rome, du Temple de Jérusalem ou encore de la cité interdite de Pékin.
Durant des millénaires, de magnifiques jardins ont été entretenus sans gazon, que ce soit en Mésopotamie ou en Égypte ou dans bien d'autres endroits.
Mais alors vous vous demandez sûrement, comment est apparue cette lubie de vouloir avoir un mini terrain de golf chez soi ?
Eh bien, l'origine de la pelouse remonte autour de l'an 800, époque à laquelle les moines ont été obligés par Charlemagne à cultiver des herbes pour la médecine et la cuisine. La pelouse s'immisce alors entre les parterres de culture surélevées et plus tard, certains parterres seront aussi recouverts d'herbes pour qu'on puisse s'y asseoir.
Cette utilisation de la pelouse existe toujours dans les parcs et les campus étudiants, même si aujourd'hui, on connaît tous le panneau « pelouse interdite » qui frustre les amateurs de sieste et de pique-nique.
Pour en revenir aux moines, à cette époque, la pelouse n'offrait pas de plus-value pour l'agriculture. L'idée de faire pousser une pelouse à l'entrée des bâtiments est née dans les châteaux des aristocrates français et anglais à la fin du Moyen-Âge. Selon Yuval Noah Harari, dans son ouvrage Homo Deus, la pelouse est ainsi devenue une marque distinctive de la noblesse.
L'utilisation de la pelouse comme couvre-sol à grande échelle est apparue dans les jardins à la française, comme on peut le voir à Versailles. Cette technique s'est développée jusqu'au XVIIIe siècle, en Angleterre, où la pelouse représentait une vision idéalisée de la nature. Elle assurait alors le lien entre la zone du jardin, proche de la maison, et le lointain paysage. Pour la petite histoire, le climat anglais étant très bien adapté pour avoir de grands espaces verts, l'herbe poussait très bien. Et donc, si les pelouses entourant la maison pouvaient être fauchées à la main, le reste était entretenu par le pâturage. Pour éviter que les animaux ne viennent trop proches des châteaux, des fossés ont été creusés. Mais puisqu'ils étaient invisibles depuis les habitations, ils ont été appelés les ha-ha, car quand les invités en se promenant découvraient le fossé, ils s'exclamaient ha, d'où le nom ha-ha.
Le gazon bien entretenu à l'entrée des châteaux était en conséquence le symbole d'une position d'une personne. C'était une manière de dire aux gueux de passage « Je suis riche et puissant, j'ai tant d'arpents et de terres que je puis me permettre cette verdure extravagante ». En effet, la pelouse était réservée aux jardins de château, car la fauche manuelle demandait une main-d'œuvre considérable. Et donc, plus la pelouse était vaste et soignée, plus la dynastie était puissante. Si vous rendiez visite à un duc et que sa pelouse était en piteux état, vous saviez qu'il avait des soucis. Bon, l'absence de liberté d'expression empêchait de dire à ton poteau le duc « Eh, mais c'est quoi ce trou là ? Il est bien jaune ton gazon, Jackie ?» Et c'est ainsi que les hommes en sont arrivés à associer les pelouses au pouvoir politique, au statut social et à la richesse économique. Pas étonnant que la bourgeoisie montante ait adopté la pelouse avec enthousiasme.
Ainsi, les palais et châteaux ont transformé la pelouse en symbole d'autorité. Quand à la fin des temps modernes, les rois furent renversés et les ducs guillotinés, les nouveaux présidents et premiers ministres conservèrent les pelouses. Parlement, cour suprême, palais présidentiel et d'autres bâtiments publics affichèrent de plus en plus leur pouvoir en multipliant les rangées de verdure.
Comme disait Coluche, ce qui distingue le roi du président, c'est que le président attend d'être élu pour se prendre pour le roi.
Puis le modèle britannique s'exporte aux États-Unis, notamment avec la construction de la Maison Blanche en 1792 par le premier président américain George Washington. Il s'avère que le parc a été réalisé par des jardiniers anglais.
Mais c'est grâce à la révolution industrielle que le gazon va considérablement se développer aux États-Unis puis dans le monde. En 1868 est inventée la première tondeuse longtemps réservée aux riches familles et donc symbole social. En 1919, l'invention de la tondeuse à moteur vient finir de démocratiser la pelouse, qui devient un symbole du fameux American Dream.
Dans les banlieues américaines, une pelouse impeccable a cessé d'être un luxe pour devenir un must-have de la classe moyenne. C'est alors qu'un nouveau rite est venu s'ajouter dans les banlieues. Après l'office du dimanche matin à l'église, beaucoup de gens se sont mis à tondre soigneusement leur pelouse. Bien plus qu'un simple loisir, le gazon devient un symbole d'intégration, de respectabilité, une obsession nationale. En se promenant dans les rues, un coup d'œil suffisait à s'assurer de la richesse et de la position d'une famille grâce à la taille et à la qualité de sa pelouse.
La pression sociale impose un gazon parfait dans tous les jardins, peu importe la zone climatique. Les propriétaires ont même eu, dès 1950, la possibilité d'acheter des teintures pour que l'herbe reste verte même l'hiver.
On comprend mieux l'inspire de Truman Show. Aujourd'hui, le gazon est la culture la plus répandue aux États-Unis après le maïs et le blé. Cette industrie représente des milliards de dollars chaque année.
Mais revenons en France, où le gazon a, dans un premier temps, eu du mal à se faire une place dans les jardins de nos belles régions du Sud. En même temps, avec des températures avoisinant les 40 degrés en été et pas un pet d'eau de pluie, tu m'étonnes que les petites pousses de gazon crevaient direct. Ce n'est qu'à partir de 1970 que le gazon s'impose dans les jardins méditerranéens, grâce à l'invention de l'arrosage automatique, qui devient perçu comme obligatoire pour la création d'un jardin en climat sec.
L'engouement pour les pelouses ne s'est pas cantonné à l'Europe ou à l'Amérique. Dans le monde entier, on associe la pelouse au pouvoir, à l'argent, au prestige et même au sport. La pelouse s'est largement propagée et a conquis les cœurs du monde islamique. Au Qatar, le nouveau musée des arts islamiques est flanqué de magnifiques pelouses. Elles ont été aménagées par une société américaine et leurs quelques 100 000 mètres carrés d'herbe en plein désert d'Arabie nécessitent chaque jour une quantité prodigieuse d'eau.
Même s'ils ont choisi la variété qui consomme le moins d'eau, on est quand même en plein désert. Vous vous rappelez les pics de chaleur à plus de 50 degrés qui avaient tué des milliers d'ouvriers pour la construction des stades climatisés ? Bah, ces petits végétaux aussi crèvent de chaud.
Car oui, en plus de l'utilisation massive d'engrais et de produits phytosanitaires, le gazon a besoin d'eau et en abondance.
Combien de terrains de golf, de foot, de tennis, de rugby sont entretenus dans des climats pas du tout adaptés ? Encore un autre exemple. Aux États-Unis, en Californie, dans l'Arizona, le Nevada ou le Texas, l'arrosage des pelouses dans les grandes agglomérations représente près de la moitié de la consommation annuelle d'eau.
En conséquence, à la fin du XXe siècle, des associations luttant contre l'utilisation du gazon commencent à apparaître. Elles critiquent autant l'usage des produits chimiques, l'épuisement des nappes phréatiques, que la volonté de maîtriser le végétal sans tenir compte du cycle naturel.
Et quand on y pense, c'est bizarre cette obsession de vouloir maintenir une nature figée comme ça. C'est peut-être un peu perché, mais le journaliste Michael Pollan y voit même une expression de la peur de la mort où le gazon ne meurt jamais, ni ne renaît.
Certains géographes parlent même d'une McDonaldisation du paysage. Le gazon se répand ainsi dans le monde, symbole de l'American Dream, qui est véhiculé par les séries télé et les réseaux sociaux.
Mais d'abord, depuis le début, on vous parle de pelouse ou de gazon, mais de quoi parle-t-on exactement ? Dans le langage courant, la différence entre les deux est assez difficile à saisir. Donc pour une fois, on va utiliser nos cours d'étymologie pour vous définir ces deux termes.
Tout d'abord, le terme pelouse viendrait de l'occitan pelouse, issu lui-même du latin pilosus, signifiant poilu et désignant un terrain couvert d'herbes rases et drues, selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales. Attention, c'est sérieux. Alors, elle est bien cette définition, mais nous, on est des étudiants en environnement, donc on va plutôt vous donner une définition plus axée sur l'écologie.
Une pelouse est généralement composée d'un mélange diversifié d'espèces de graminées. Vous savez, ces plantes qui transforment le printemps en enfer sur terre, pour ceux qui y sont allergiques. Bon, il est aussi composé d'autres plantes herbacées pour finir le cocktail. Cette diversité contribue à la résilience de la pelouse face aux maladies, aux parasites et aux conditions environnementales changeantes.
Quant à gazon, son origine serait germanique, le francique wasso qualifiant une mode de terre recouverte d'herbes. Dans le monde contemporain, le terme désigne toute une liste de variétés inscrites au catalogue officiel des gazons. Le gazon est souvent constitué d'un nombre restreint d'espèces graminées, soigneusement sélectionnées pour leurs caractéristiques spécifiques.
Déjà, le gazon, ce n'est pas forcément un parterre composé d'une seule et unique espèce, comme on pourrait se l'imaginer. En effet, le catalogue officiel permet de s'orienter parmi pas moins de 224 variétés. Selon Jean-Marc Lecourt, ancien président de la Société française des gazons, je cite, « Dérèglement climatique, manque d'eau et interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires sont des difficultés émergentes auxquelles il faut s'adapter pour répondre aux besoins du français d'avoir une pelouse chez lui. » Premièrement, pourquoi on devrait écouter ce monsieur réciter un discours marketing pour nous créer des besoins ? Secondo, pourquoi aurions-nous besoin d'une pelouse qui semble si peu adaptée aux conditions méditerranéennes ?
Eh bien, pour vous répondre, je vais m'appuyer sur un article publié en 2012 sur Springer Nature par Adam Selhorst et Ratan Lal. ils ont examiné les gazons résidentiels dans différentes écorégions des États-Unis afin de déterminer la capacité de stockage du carbone organique dans les sols où pousse du gazon. Grosso modo, est-ce que le gazon absorbe et retient le carbone que l'on se fait une joie de lui envoyer dans la tronche, comme le font les forêts et les océans? Et pour cela, ils ont étudié 16 sites situés dans de grandes villes américaines.
L'étude a révélé que la séquestration du carbone organique du sol se produisait dans tous les sites. Sympa le gazon quand même. Cependant, attention, accrochez-vous, c'est parti pour les chiffres. Les taux de séquestration pour une profondeur de 0 à 15 cm étaient en moyenne de 2800 kg par hectare et par an sur les 16 sites, ce qui représente 280 g par mètre carré par an en moyenne.
Les résultats doivent être interprétés en tenant compte de plusieurs hypothèses et variables. Tout d'abord, dans l'étude des différences dans les pratiques et l'intensité de l'irrigation pourrait avoir un effet minimal sur les mesures.
Bien que les espèces de gazon soient constantes au sein des villes, elles varient d'une région à l'autre. Pourtant, c'est bien l'utilisation intensive de tondeuses et d'applications chimiques pour maintenir la santé et l'esthétique des pelouses qui contribue de manière significative aux émissions de carbone dans l'atmosphère. Tiens donc, qui l'eût cru ?
À long terme, le carbone émis dans l'atmosphère par ces pratiques peut égaler, voire dépasser, la quantité de carbone séquestré, transformant ainsi les pelouses résidentielles de puits de carbone en sources de carbone atmosphérique. Et merci Monsanto.
Conclusion, selon les conditions écologiques et les pratiques, on n'a pas les mêmes capacités de stockage de carbone. Disons qu'on ne s'attend pas à bronzer pareil en Floride ou dans le Minnesota et avoir la même santé si tu bois du coca ou de l'eau. Bah, c'est un peu ça l'idée.
Selon l'Agence locale de l'énergie et du climat, pour un mètre carré de gazon, il faut compter 1 mètre cube d'eau par an, soit 2,6 litres par jour et par mètre carré. C'est presque autant que la consommation moyenne de pastis par les Marseillais. Sinon, dans les régions plus au sud, comme l'Andalousie ou le Péloponnèse, cette consommation est même doublée et il faut prendre en compte que le climat de ces régions-là pourrait bientôt devenir celui de notre avenir en raison du réchauffement climatique.
Aujourd'hui, pour pallier ce problème, les systèmes d'aspersion et de compte-gouttes sont installés presque systématiquement dans les climats secs. Olivier Philippi, pépiniériste et botaniste, affirme ainsi que les jardiniers professionnels se muent aujourd'hui en véritables plombiers.
Ironie du sort, arroser son jardin tue les plantes endémiques, résistantes aux fortes températures et aux sécheresses, mais ne supportant pas l'eau en été. On pourrait croire que le gazon synthétique serait une bonne alternative, mais détrompez-vous. Une équipe de chercheurs de l'Université de Barcelone ont découvert que le gazon artificiel est un désastre écologique. C'est reparti pour les chiffres. Les 7 chercheurs espagnols ont analysé 217 échantillons d'eau collectés au large de Barcelone et 200 dans le Guadalquivir, le plus grand fleuve espagnol qui traverse Séville notamment. Les quelques 417 échantillons ont été collectés entre 2014 et 2021. Résultat des courses, 15% des morceaux de plastique de plus de 5 mm récoltés au large de Barcelone étaient des fibres de gazon synthétique. La concentration était 50 fois inférieure dans le fleuve, mais comme le précise le chargé de l'étude Liam de Haan, le fleuve se déverse dans l'océan tandis que les fibres peuvent s'accumuler dans la mer. De plus, Séville est aussi une plus petite ville que Barcelone, ce qui peut expliquer en partie la différence.
L'incertitude est encore plus inquiétante étant donné qu'il a affirmé qu'il ne savait pas dans quelle mesure le gazon artificiel se décomposait en micro et en nanoplastiques et dans quelle mesure il contribue à la pollution dans les masses d'eau.
La question sanitaire se pose également. Le gazon synthétique est produit à partir de polyéthylène et de polypropylène, des microfibres en plastique. Le quotidien régional La Dépêche révélait en 2019 que plusieurs études ont montré que l'un des additifs utilisés pour le polypropylène a une activité œstrogénique. Additionné à d'autres perturbateurs endocriniens du quotidien, il pourrait potentiellement favoriser le cancer du sein.
Pour les gazons traditionnels, on pourrait parler des effets des produits phytosanitaires qu'on utilise abondamment. Des études épidémiologiques ont mis en évidence des liens entre l'exposition aux pesticides et le risque d'apparition de pathologies cancéreuses, neurologiques ou encore de troubles de la reproduction, sans parler de son impact sur la biodiversité, qui participe grandement à son effondrement.
Tout de suite, ça donne moins envie de siester dans ce gazon quand même.
La meilleure solution pour limiter l'entretien de son jardin et le besoin en eau est, d'après Olivier Philippi, de réduire sa surface de gazon et de définir la surface réellement nécessaire dans notre jardin.
Si nous voulons ce gazon dans un besoin esthétique, il faut se demander pourquoi on suivrait une mode anglaise qui remonte à la jeunesse de Biden.
Souvent, ce sont les besoins d'espace de fraîcheur agréable pour s'y poser ou jouer qui sont avancés. Cependant, ces surfaces sont souvent surestimées. Il est possible de définir des gradients de piétinement selon les espaces et usages pour ainsi repenser son jardin.
Faudrait aussi peut-être se demander quelle végétation est endémique là où nous vivons. La garrigue est verte toute l'année et personne ne vient s'en occuper. Les plantes sont naturellement adaptées à leur milieu et la question de l'arrosage ne se pose pas, bien que le réchauffement climatique soit de plus en plus rude pour les végétaux.
Transposé au jardin, le choix de plantes méditerranéennes est pertinent et très efficace pour réduire drastiquement ses consommations d'eau.
Pour vous guider dans le choix de vos plantes, vous pouvez vous renseigner sur la marque végétale locale qui sélectionne des plantes sauvages et de votre région. Aussi, n'hésitez pas à aller voir des pépiniéristes spécialisés dans les plantes locales et adaptées au climat près de chez vous.
Après tout ce qu'on vous a raconté, vous pourrez peut-être rester réticent à changer vos pratiques. Une enquête de l'ONG Parlons Climat, publiée en novembre 2024, s'est intéressée aux climato-sceptiques en France. On retiendra qu'environ un tiers des Français émettent des doutes quant à l'origine anthropique du changement climatique. Dans la mesure où celui-ci met en lumière le rôle néfaste de l'humain par ses activités et plus globalement par son mode de vie, il génère un sentiment de culpabilité qui, à son tour, suscite une opposition plus ou moins forte à la lutte climatique.
Le climato-scepticisme est donc une posture de défense face à une transition écologique qui menace les modes de vie, les valeurs, l'identité, les croyances politiques ou religieuses de certains individus. Les chercheurs invitent alors les personnes à confronter les faits scientifiques, parce qu'ils sont factuels et démontrables. Si les citoyens croient les scientifiques et comprennent les causes du changement climatique, ils agiront.
Face au changement de paradigme qu'incombe à notre société de réaliser, le gazon ne s'avère pas être une solution et fait même partie du problème. Il correspond à la vision d'un maître et possesseur de la nature qui assujettit celle-ci à ses désirs, vision qui se heurte au caractère limité des ressources terrestres et d'une non-correspondance à l'adaptation des végétaux au changement climatique.
Ce legs culturel des ducs et des capitalistes ne nous oblige pas à nous y plier. Telle est la meilleure raison d'apprendre l'histoire, non pas prédire le futur, mais se libérer du passé et s'imaginer d'autres destinées.
Merci de nous avoir écoutés. C'était Écho d'Écolo, la radio qui met la planète au micro. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez le retrouver en podcast sur le site de Radio Alliance Plus.
On vous dit à très vite pour un nouvel épisode et on vous laisse avec Beautiful de Snoop Dogg, Pharrell Williams et Charlie Wilson.
Snoop shit, come on baby boo, you got to get into it. Gone fool with the player with the cool wit. Yeah, you know I'm always on that cool shit. Walk to it, do it how you do it. Have a glass, let me put you in the mood. It look cute, looking like a student. Long hair with your big fat booty. Back in the days you was the girl I went to school with. Had to tell your mom and sister to cool it. The girl wanna do it, I just might do it. Get her off with some pimp fluid. Mommy, don't worry, I won't abuse it. Hurry up and finish so you can watch Clueless. I laugh at these niggas when they ask who do this. But everybody know who girl that you is.
Beautiful.
My baby boo shit, I get foolish. Smack a nigga that tries to pursue it. Homeboy, she taking, just move it. I asked you nicely, don't make the dog lose it. We just blow draw and keep the flow moving. In a 6'4", me and baby boo cruising. Body wagging till we get blueing. Had him hydraulic squeaking when we screwing. Now she's yelling, hollering out, snooping. Hooting, hollering, hollering, hooting. Black and beautiful, you the one I'm choosing. Hair long and black and curly like a Cuban. Keep grooving, that's what we doing, and we gon' be together until your mom's moving.
male clothing, that's what I'm groomed in. You got my pictures on the wall in your room, and girls be complaining, you keep me booming. But girls like that wanna listen to Pat Boone. You's a college girl, but that'll stop you from doing. Come and see the dog in the hood near you when you don't ask why I roll with a crew. When twist up my fingers and wear dark blue. When on the east side, that's the crew I choose. Nothing I do is new to you. I smack up the world if they rude to you. Cause baby girl, you're so beautiful.
Something about you.